Chapitre 2.25 à Byfleet. De l'après-midi du 9 septembre, quelques travailleuses de l'établissement Passmore Edwards, qui étaient en vacances avec Mesdemoiselles Chappell et Beckton à Vanners dans Byfleet, un village à environ 30 km de Londres, eurent le grand privilège de rencontrer Abdu'l-Bahá. Elles écrivirent un court récit de ses propos pour en garder le souvenir. En voici un extrait. Nous nous rassemblâmes en cercle autour de lui, et il nous fit asseoir à ses côtés, sur les sièges près de la fenêtre. L'une d'entre nous, qui était malade, reçut de sa part une marque toute spéciale de gentillesse. Tout en s'asseyant, Abdu'l-Bahá commença par dire « Êtes-vous heureuse ?» Et nos visages durs lui montraient que nous l'étions. Il dit alors « Je vous aime toutes, vous êtes des enfants du royaume, et vous êtes acceptés de Dieu. Bien que vous soyez pauvres ici, vous êtes riches des trésors du royaume. Je suis le serviteur des pauvres. » Souvenez-vous de sa sainteté Jésus lorsqu'il disait « Bénis sont les pauvres » voir Matthieu 5, 3 et Luc 6, 20. Même si toutes les reines de la terre étaient rassemblées ici, je ne pourrais pas être plus heureux. Abdu'l-Bahá savait que nous avions un coffret à monnaie pour essayer d'aider les gens moins fortunés que nous. Il se leva et dit « Vous m'êtes cher, je veux faire quelque chose pour vous. Je ne peux pas cuisiner pour vous. » Peu avant, il nous avait vus occupés dans la cuisine. « Mais voici quelque chose pour votre fonds. » Il fit le tour de chacune d'entre nous en nous serrant la main avec un beau sourire et en nous saluant d'une formule bahaï, « Allahu Abba ». Plus tard, il marcha dans le village, et beaucoup d'enfants pauvres vinrent à lui, ainsi que des mères avec des nourrissons malades et des hommes sans travail. Il parla à tous, grâce à un interprète. À l'heure du thé, d'autres amis nous rejoignirent. Abdu'l-Bahá aimait le jardin du cottage à Vanners, le petit verger et les roses. Il dit « C'est comme un jardin persan, l'air est très pur. » Au moment de son départ pour Londres, il offrit à chacun une pensée violette du jardin et dit à plusieurs reprises en anglais « Au revoir ». Le 28 septembre, Abdu'l-Bahá se rendit à nouveau à Vanners, dans la petite ferme du vieux manoir royal datant du temps d'Édouard II. Il fut conduit en véhicule motorisé, y passa la nuit et retourna à Londres le lendemain soir. Abdu'l-Bahá fut très frappé durant le trajet par deux patrouilles de Boy Scouts marchant à pas cadencés sur la route. Quand nous lui dîmes que la devise des scouts est « toujours prêt » et qu'une de leurs lois consiste à faire une bonne action chaque jour et que certains de ces garçons avaient éteint un incendie et apporté leur aide lors d'un récent accident de chemin de fer, il dit « cela me rend très heureux ». En arrivant à Vanners, il trouva une grande foule bigarrée, rassemblée devant le portail pour l'accueillir. Il y avait aussi bien des gens complètement pauvres que des riches arrivés en voiture du fin fond de leur campagne. Un grand nombre le suivirent et tous se pressèrent tant qu'ils purent dans le jardin pour s'asseoir par terre autour de lui. Le silence était très impressionnant. La même attention et le même désir d'entendre se manifester chez les gens chaque fois que Abdu'l-Bahá apparaissait dans le village. Après avoir exprimé sa joie d'être avec eux, il commença de parler au petit groupe en réponse à une question concernant la civilisation développée d'Occident. Chapitre 2.26 La captivité de l'homme. Abdu'l-Bahá dit « Le luxe entrave la liberté des relations. Celui qui est prisonnier de ses désirs est toujours malheureux. Les enfants du royaume se sont libérés des chaînes de leurs désirs. Brisez tous vos fers et recherchez la joie et l'illumination spirituelle. Alors, bien que vous marchiez sur cette terre, vous apercevrez que vous faites partie de l'horizon divin. À l'homme seul est donnée cette faculté. Quand nous regardons autour de nous, nous voyons toutes les autres créatures captives de leur environnement. L'oiseau est prisonnier de l'air et le poisson de la mer. seul l'homme se tient à part et dit aux éléments « Je ferai de vous mes serviteurs, je puis vous gouverner. » Il prend l'électricité et grâce à son ingéniosité, il l'emprisonne et en fait un merveilleux pouvoir pour éclairer et un moyen pour communiquer à des distances de plusieurs milliers de miles anglais. Mais l'homme lui-même peut devenir un prisonnier des choses qu'il a inventées. Sa véritable seconde naissance arrive quand il est libéré de toutes les choses matérielles, car seul est libre celui qui n'est pas captif de ses désirs. Il est devenu, comme Jésus l'a dit, prisonnier de l'Esprit-Saint. Chapitre 2.27 Le pouvoir de Dieu. Un ami demanda à Abdu'l-Bahá jusqu'à quel point un individu peut posséder en lui-même cette conscience du Christ, que saint Paul nomme l'espérance de la gloire. Voir Épître de saint Paul aux Romains 5.2. Abdu'l-Bahá se tourna avec une grande joie dans le regard et dit avec un geste émouvant « La bonté et le pouvoir de Dieu sont sans limite pour chaque âme humaine. » Considérez ce qu'était le pouvoir vivifiant du Christ quand il était sur terre. Regardez ses disciples. Ils étaient des hommes pauvres et non cultivés. D'un rustre pêcheur, il fit le grand Pierre. Et de la pauvre fille du village de Magdala, il fit quelqu'un de vénéré pour son pouvoir dans le monde entier aujourd'hui. On se souvient de nombreuses reines qui ont régné grâce aux dates qui figurent dans l'histoire. Mais Marie-Madeleine est plus grande que toutes ces reines. Elle est celle dont l'amour fortifia les apôtres quand leur foi chancelait. Ce qu'elle fit pour le monde ne peut être mesuré. Voyez quel pouvoir divin s'embrasait en elle par le pouvoir de Dieu. Chapitre 2.28 Les messagers inspirés. Quand on lui demanda s'il serait toujours nécessaire que les prophètes viennent d'âge en âge, le monde ne parviendrait-il pas à avoir une pleine connaissance de Dieu au fil des événements qui marqueraient sa progression? Abdu'l-Bahá répondit « L'humanité a besoin d'une source d'énergie universelle pour la vivifier. Le messager inspiré qui est directement assisté par le pouvoir de Dieu produit des résultats universels. Baha'u'llah se leva telle une lumière sur la Perse. Et maintenant cette lumière se propage dans le monde entier. Est-ce la signification de la seconde venue du Christ? Le Christ est une expression de la réalité divine, de l'essence unique et de l'entité céleste, qui n'a ni commencement ni fin. Chaque cycle comprend une apparition, une révélation, une manifestation et un déclin. Ceux qui ont été avec Abdu'l-Bahá ont noté que souvent après avoir parlé aux gens avec ardeur, ils se tournaient tout d'un coup et allaient marcher plus loin pour être seuls. En de tels moments, personne ne le suivait. Cette fois-ci, quand il eut fini de parler et qu'il partit par le portail du verger vers le village, tous furent frappés par son pas libre et merveilleux, qui a été décrit par l'un de nos amis américains comme celui d'un berger ou d'un roi. Quand il passa, des enfants en haillons se groupèrent par douzaines autour de lui, les garçons le saluant comme ils l'avaient appris à l'école et lui montrant comment instinctivement ils avaient ressenti l'importance de sa présence. Le plus remarquable fut le silence des hommes, même les plus durs, quand Abdu'l-Bahá parut. Un pauvre clochard s'exclama « C'est un homme bon » et ajouta « Oui, il a souffert ». Il témoigna un intérêt particulier pour les enfants malades, estropiés et mal nourris. Les mères portant leurs plus petits le suivirent, et un ami expliqua que ce grand visiteur avait traversé les mers depuis la Terre Sainte où Jésus était né. Pendant toute la journée, des gens de toutes conditions se rassemblèrent devant le portail dans l'espoir de l'apercevoir, et plus de 60 personnes vinrent en voiture ou à vélo jusqu'à Vanners pour le voir, nombreux étant ceux qui souhaitaient le questionner sur un sujet spécial. Parmi eux, il y avait des ecclésiastiques de différentes confessions, le directeur d'une grande école d'enseignement secondaire de garçons, un membre du Parlement, un docteur, un écrivain politique célèbre, un recteur d'université, plusieurs journalistes, un poète bien connu et un magistrat de Londres. On se souviendra longtemps de lui alors qu'il était assis près de la fenêtre en rotonde dans le soleil de l'après-midi. De son bras, il entourait les épaules d'un petit enfant déguenillé mais très heureux, venu pour demander à Abdu'l-Bahá 6 pence à mettre dans sa tirelire pour sa mère infirme. Autour de lui s'étaient rassemblés dans la pièce des hommes et des femmes qui discutaient de l'éducation, du socialisme, du premier Reform Bill et de la relation entre les sous-marins, la télégraphie sans fil et l'ère nouvelle dans laquelle l'homme était en train d'entrer. Nota, le Reform Bill est l'acte qui, en 1832, réforma le Bill of Rights de 1689 en instaurant le suffrage universel. Durant la soirée, deux jeunes fiancées du village, qui avaient lu quelques livres Bai, demandèrent la permission de venir à lui. Ils entrèrent timidement, le garçon conduit par la fille. Abdu'l-Bahá se leva pour les saluer et les fit prendre place dans le cercle. Il leur parla avec ardeur du sens sacré du mariage, de la beauté d'une union véritable et de l'importance du petit enfant et de son éducation. Avant leur départ, il les bénit et oignit leur tête et leur front d'un parfum persan. Chapitre 2.29 L'éducation. Abdu'l-Bahá insista grandement sur l'éducation. Il dit « L'éducation de la fille est aujourd'hui d'une plus grande importance que l'éducation du garçon, car elle est la mère de la génération future. C'est le devoir de tous de s'occuper des enfants. Ceux qui n'ont pas d'enfants devraient, si possible, se rendre responsables de l'éducation d'un enfant. La condition des indigents dans les villages et à Londres impressionna fortement Abdu'l-Bahá. Lors d'une conversation pleine d'ardeur avec le recteur d'une paroisse, Abdu'l-Bahá dit « Je trouve l'Angleterre réveillée. Il y a de la vie spirituelle ici. Mais vos pauvres sont si pauvres. Cela ne devrait point être. D'un côté, vous avez de la richesse et un grand luxe. D'un autre côté, des hommes et des femmes vivent à la limite de la faim et du besoin. Ce grand contraste dans la vie est l'un des points noirs de la civilisation en cet âge illuminé. Vous devez prêter une attention plus empressée concernant l'amélioration de la condition des pauvres. Ne soyez satisfait que lorsque chaque personne pour qui vous vous sentez concerné deviendra pour vous comme un membre de votre famille. Considérez chacun soit comme un père, soit comme un frère, soit comme une sœur, soit comme une mère, soit comme un enfant. Si vous pouvez parvenir à cela, vos difficultés s'aplaniront, vous saurez quoi faire. Tel est l'enseignement de Baha'u'llah. Chapitre 2.30 Le changement du cœur. À une personne qui parlait du désir du peuple de posséder la terre et du profond courant de révolte des classes laborieuses, Abdu'l-Bahá dit « Se battre et employer la force, même pour une juste cause, n'apportera pas de bons résultats. Les opprimés qui ont le droit de leur côté ne doivent pas saisir ce droit par la force. Le mal continuerait. Les cœurs doivent être changés. Les riches doivent souhaiter donner. La vie en l'homme devrait être comme une flamme, réchauffant tous ceux avec quoi elle entre en contact. Les êtres spirituellement réveillés sont comme des torches brillantes aux yeux de Dieu. Ils donnent de la lumière et du réconfort à leurs semblables. Quand on lui demanda s'il ne trouvait pas les manières des Anglais grossières et maladroites en comparaison de celles d'Orient, Abdu'l-Bahá dit qu'il n'avait pas ressenti cela. Quand une nation croit en spiritualité, les manières deviennent différentes. Chapitre 2.31 Christ et Baha'u'llah. Un ami demanda en quoi les enseignements de Baha'u'llah contrastaient avec ceux de Jésus-Christ. Les enseignements sont les mêmes, déclara Abdu'l-Bahá. C'est le même fondement et le même temple. La vérité est une et sans division. Les enseignements de Jésus sont sous une forme condensée. Les hommes ne sont pas d'accord aujourd'hui sur le sens donné à nombre de ces paroles. Ces enseignements sont comme une fleur en bourgeon. Aujourd'hui, le bourgeon se déploie en une fleur. Baha'u'llah a élargi et accompli les enseignements et les a appliqués en les détaillant au monde entier. Il n'y a pas d'anachorète ni d'ermite parmi les bahaïs. L'homme doit travailler avec ses semblables. Chacun devrait avoir un commerce, une profession ou pratiquer un art, qu'il soit riche ou pauvre, et avec cette activité, il doit servir l'humanité. Ce service est accepté comme la plus haute forme d'adoration. Chapitre 2.32 L'art. Une femme peintre demanda « Est-ce que l'art est une vocation digne ?» Abdu'l-Bahá, se tournant vers elle avec solennité, dit « L'art est adoration. » Un acteur s'enquit du théâtre et de son influence. « Le théâtre est de la plus haute importance, » dit Abdu'l-Bahá. « Il a eu un grand rôle éducatif dans le passé. Il en sera encore ainsi. » Il décrivit comment, tout jeune garçon, il assista à une représentation du mystère et de la passion de Ali et combien cela le toucha profondément, à tel point qu'il sanglota et ne put dormir pendant plusieurs nuits. Chapitre 2.33 Les symboles. Quelqu'un voulut savoir si c'était une bonne coutume de porter un symbole, comme par exemple une croix. Il dit « Vous portez la croix pour vous souvenir, elle concentre vos pensées. Elle n'a aucun pouvoir magique. Les bahaïs portent souvent une pierre avec le plus grand nom gravé dessus. Il n'y a aucune influence magique dans cette pierre. C'est un moyen de rappel et un compagnon. Si vous êtes sur le point de faire une action égoïste ou précipitée, et si votre regard tombe sur la bague à votre main, vous vous souviendrez et vous changerez votre intention. » Chapitre 2.34 L'espéranto. Un ami s'informa sur la prophétie de Baha'u'llah dans les Paroles du Paradis. Voir 8e feuille, Paroles du Paradis, tablette de Baha'u'llah, maison d'édition Bahaï, Bruxelles, 1994, concernant l'institution d'une langue universelle, et désira savoir si l'espéranto serait la langue choisie. L'amour et l'effort placés dans l'espéranto ne seront pas perdus, répondit-il. Mais aucune personne ne peut construire seule une langue universelle. Elle doit être élaborée par un conseil représentant tous les pays et doit contenir des mots de différentes langues. Les règles les plus simples la régiront et il n'y aura pas d'exception. Il n'y aura ni genre, ni lettre muette, ni surcharge. Tout ce qui sera signifié n'aura qu'un nom. En arabe, il y a des centaines de noms pour désigner le chameau. Dans les écoles de chaque nation, la langue maternelle sera enseignée ainsi que la langue universelle officielle. Chapitre 2.35 Tolstoï. Le même intervenant dit « J'ai beaucoup lu Tolstoï et je vois un parallèle entre ses enseignements et les vôtres. Dans l'un de ses livres, il parle de l'énigme de la vie et décrit comment la vie est gâchée dans notre effort pour en trouver la clé. Et Tolstoï d'ajouter « Il y a un homme en Perse qui détient le secret. » « Oui, » dit Abdu'l-Bahá, « j'ai reçu une lettre de Tolstoï dans laquelle il dit souhaiter écrire un livre sur Baha'u'llah. » Chapitre 2.36 La guérison. Un ami intéressé par ce qui touche à la guérison cita les paroles de Baha'u'llah. « Si quelqu'un est malade, qu'il aille chez le plus grand médecin. » Nota, la citation exacte de Baha'u'llah est « Quand vous tombez malade, consultez des médecins compétents. » Citation tirée d'une compilation préparée par la Maison universelle de justice Health and Healing, Some Aspects, de National Spiritual Assembly of the Baha'is of New Zealand, Auckland, 1981. Abdu'l-Bahá dit « Il n'y a qu'un pouvoir qui guérit, c'est Dieu. L'état ou la condition qui permettent la guérison, c'est la confiance du cœur. Quelques-uns atteignent cet état au moyen de pilules et de poudres et grâce à des médecins. D'autres au moyen de l'hygiène, du jeûne et de la prière. D'autres grâce à une aptitude particulièrement sensible qui leur permet de percevoir les choses directement. » À une autre occasion, Abdu'l-Bahá dit concernant ce même sujet « Tout ce que nous voyons dans le monde autour de nous est le travail de l'esprit. C'est l'esprit dans l'herbe et dans le minéral qui agit sur le corps humain et change sa condition. » La causerie se prolongea en un discours érudit sur la philosophie d'Aristote. Chapitre 2.37 La mort. Un ami demanda « Comment devrait-on attendre la mort ?» Abdu'l-Bahá répondit « Comment envisage-t-on le but de tout voyage ? Avec espoir et impatience. Il en va de même pour le terme de ce voyage terrestre. Dans l'autre monde, l'homme se retrouvera libéré des nombreuses infirmités qui aujourd'hui le font souffrir. Ceux qui ont franchi le cap de la mort ont leur propre monde. Ce monde n'est pas éloigné du nôtre. L'œuvre qu'ils accomplissent, l'œuvre du royaume, est aussi notre œuvre, mais elle est sanctifiée de ce que nous appelons le temps et l'espace. Notre temps est mesuré en fonction du soleil. Lorsqu'il n'y a plus de lever du soleil, ni de coucher du soleil, ce type de temps n'existe plus pour l'homme. Ceux qui sont montés au ciel ont des attributs différents de ceux qui sont encore sur terre, mais en fait, il n'y a pas de réelle séparation. Dans la prière, il y a interpénétration d'états, mélange des conditions. Priez donc pour eux comme ils prient pour vous. Sans que vous le sachiez, si vous êtes en difficulté et lorsque vous êtes dans une attitude réceptive, ils sont capables de vous faire des suggestions. Cela se produit quelquefois durant le sommeil, mais cela n'a rien de prodigieux. Ce qui semble prodigieux a une autre explication. L'intervenant s'exclama. « Mais j'ai entendu une voix. » Abdu'l-Bahá dit « Oui, c'est possible. Nous entendons clairement des voix durant les rêves. Ce n'est pas avec l'oreille physique que vous avez entendu. L'esprit de ceux qui sont partis est libéré des sens de la vie et n'utilise pas des moyens physiques. Ce n'est pas possible d'exprimer ces grandes questions dans le langage humain. Le langage des hommes est le langage des enfants. Et l'explication que donne l'homme souvent nous égare. Quelqu'un demanda comment il se faisait que pendant une prière ou une méditation, le cœur souvent se tourne vers un ami qui est passé dans l'autre vie et lui lance instinctivement un appel. Abdu'l-Bahá répondit « C'est une loi de la création de Dieu que le faible devrait s'appuyer sur le fort. Ceux vers qui vous vous tournez peuvent être les médiateurs du pouvoir de Dieu pour vous, de la même façon que lorsqu'on est sur terre. » Mais c'est le Saint-Esprit seul qui fortifie tous les hommes. Ensuite, un autre ami se référa à la communion de Jésus avec Moïse et Élie sur le mont de la Transfiguration, et Abdu'l-Bahá dit « Les fidèles sont toujours soutenus par la présence du concours suprême. Dans le concours suprême, il y a Jésus et Moïse et Élie et Baha'u'llah et d'autres âmes suprêmes. Il y a aussi les martyrs. » Quand on le questionna sur la permanence de la personnalité de l'animal après la mort, Abdu'l-Bahá dit « Même le chien le plus développé n'a pas l'âme immortelle de l'homme. Cependant, le chien est parfait à sa propre place. Vous ne vous querellez pas avec un rosier parce qu'il ne peut pas chanter. » Chapitre 2.38 Un vrai Bahá'í. Une personne qui étudiait les méthodes contemporaines de critique historique demanda à Abdu'l-Bahá s'il ferait bien de rester dans l'église qu'il fréquenta toute sa vie et dont le langage était plein de sens pour lui. Abdu'l-Bahá répondit « Vous ne devez pas vous en désintéresser. Sachez ceci, le royaume de Dieu n'est dans aucune association. Des chercheurs vont à travers de nombreuses associations comme un voyageur traverse de nombreuses villes jusqu'à ce qu'il atteigne sa destination. Si vous appartenez déjà à une association, n'abandonnez pas vos frères. Vous pouvez être un Bahá'í chrétien, un Bahá'í franc-maçon, un Bahá'í juif, un Bahá'í musulman. » Nota, ce passage doit être compris dans le sens où un Bahá'í peut avoir n'importe quelle origine religieuse et même être d'origine athée. Il ne doit pas être compris comme si un Bahá'í pouvait appartenir à plusieurs confessions. Le post-scriptum d'une lettre écrite de la part du gardien indique « Aucun Bahá'í ne peut plus longtemps dissimuler sa foi et continuer à pratiquer les lois et ordonnances d'une dispensation précédente tout en se déclarant incroyant. » Hélène Hornby, Lights of Guidance, chapitre 4, lettre du 21 mai 1933, extrait numéro 531, Bahai Publishing Trust, New Delhi, India, deuxième édition révisée et enrichie, 1988. Dans une autre lettre écrite de la part du gardien, il est dit « Nous, en tant que Bahai, nous devons avoir aucune affiliation avec des églises ou des partis politiques. C'est pourquoi nous devrions nous retirer de nos églises, mais, si nous le souhaitons, continuer de fréquenter leurs membres et leurs ministres. » Ibidem, lettre du 24 juin 1947, extrait numéro 530. Enfin, la Maison universelle de justice a clairement statué que, si une personne est inscrite en tant que membre d'une église ou d'une organisation religieuse similaire, celle-ci devrait s'en retirer dès qu'elle se déclare Bahai. Ibidem, lettre du 21 novembre 1968, extrait numéro 532. Le nombre 9 contient 8 et 7, et tous les autres nombres, et ne renie aucun des autres. Ne peinez et ne refusez personne en disant « Il n'est pas Bahai ». Il sera connu par ses actes. Il n'y a aucun secret parmi les Bahai. Un Bahai ne cache rien. Chapitre 2.39 Propager l'enseignement. Un ami américain l'interrogea. « Quelle est la meilleure façon de propager l'enseignement ?» Il répondit « Par les actes. Cette manière est ouverte à tous, et les actes sont compris de tous. Joignez-vous à ceux qui travaillent pour les pauvres, les faibles et les infortunés. Ceci est grandement recommandé. Enseigner par des mots requiert l'adresse d'un sage médecin. Il n'offre pas d'aide à ceux qui ne veulent pas de traitement. Ne portez pas aide à ceux qui n'ont pas besoin de votre aide. Le travail d'enseignement n'est pas pour tous. » L'histoire suivante montre combien l'attention de Abdu'l-Bahá se porte sur de petits détails où d'autres sont impliqués. Apprenant que quelques-uns de ses amis étaient venus de Londres et avaient projeté de s'arrêter pour la nuit dans le village afin d'être près de lui, Abdu'l-Bahá en fit immédiatement ses invités à l'auberge et, se souciant de leur confort, alla personnellement inspecter les chambres car les nuits devenaient froides. Chapitre 2.40 À Brooklands. Le matin du second jour, une voisine fit mettre sa voiture à la disposition de Abdu'l-Bahá en lui demandant s'il ne lui plairait pas d'emmener ses invités au terrain d'aviation de Brooklands. Malgré le grand vent, un aviateur s'était mis sur la piste dès qu'il avait appris le nom du visiteur pour qui il devait voler. Abdu'l-Bahá laissa ses amis et marcha jusqu'au milieu du terrain, où il se tint seul debout, regardant le biplan faire de larges cercles au-dessus de lui. Un hindou, qui apprenait à voler à l'école, rejoignit les amis de Abdu'l-Bahá et demanda « Qui est l'homme en habit oriental ?» Quand on le lui dit, il s'exclama « Oh, je le connais très bien à travers ses enseignements que j'ai étudiés !» Et immédiatement, il alla à la rencontre de Abdu'l-Bahá. Ils parlèrent ensemble en arabe un certain temps, le jeune homme montrant une grande joie d'être en sa présence. Il dit par la suite qu'il avait attendu ce moment pendant de nombreuses années. Pendant qu'il prenait le thé au dehors, Abdu'l-Bahá et le jeune hindou, assis à l'extrémité des longs bancs qui avaient été installés, se parlèrent très simplement. Abdu'l-Bahá remarqua deux des aviateurs qui faisaient de la lutte au sol. Et quand ils s'arrêtèrent, il alla vers eux, tapant des mains et criant en anglais « Bravo, bravo, c'est un bon exercice !» De retour en Égypte, Abdu'l-Bahá a envoyé un télégramme plein d'amabilité, présentant ses compliments aux gens de Byfleet, leur disant qu'il ne les oublierait jamais. Chapitre 2.41 Les journées à Londres. Pendant le séjour de Abdu'l-Bahá à Cadogan Gardens, les gens arrivaient tous les jours, à n'importe quelle heure de la journée, du matin très tôt à la nuit tombante, espérant avoir le privilège de le voir et de l'entendre parler. Nombreuses furent les réunions autour de la table de cette maison hospitalière et des centaines de personnes y furent conviées. Beaucoup vinrent sans invitation et personne ne fut éconduit. Parmi les visiteurs, il y eut des membres du clergé de diverses confessions, des membres du Parlement, des magistrats et des hommes de lettres. Les visiteurs n'étaient pas seulement des Anglais. De nombreux Persans avaient fait le voyage depuis Téhéran et d'autres villes d'Orient afin de rencontrer librement celui dont ils avaient été si longtemps privés à cause de sa captivité. Le rédacteur en chef d'un journal imprimé au Japon modifia son itinéraire de retour pour Tokyo dans le but de pouvoir passer la nuit près de Abdul-Baha. Et un médecin zoroastrien de Bombay lui rendit visite tardivement la veille de son retour pour l'Inde. Chapitre 2.42 Le travail des femmes. L'intérêt de Abdul-Baha pour le travail et le progrès des femmes est bien connu, et parmi les notables de la haute société qui vinrent le voir, on peut mentionner Madame Annie Besant, présidente de la Société théosophique, les organisatrices de plusieurs corps de suffragettes, des femmes actives dans le domaine des droits des citoyens et dans le domaine philanthropique, les directrices de plusieurs collèges de filles et des femmes ayant leur doctorat. Nota, les suffragettes sont des militantes en faveur du suffrage universel. Le gouvernement de coalition de Lloyd George fera adopter en janvier 1918 le suffrage universel complet, dont le droit de vote aux femmes de plus de 30 ans. En 1928, la limite d'âge des femmes pour le droit de vote sera ramenée de 30 à 21 ans. Serge Cosseron et Philippe Faverjon, l'Europe de 1815 à nos jours, la manufacture, Besançon, 1991. Addendum, les femmes voteront pour la première fois en France en 1945 lors des élections municipales et cantonales et lors de l'élection de l'Assemblée constituante. Ceux qui eurent le privilège d'être présents se souviendront longtemps de cette conversation pleine d'esprit à l'occasion de la visite d'une ardente suffragette. La pièce était remplie d'hommes et de femmes, de nombreux Persans étant assis sur le sol dans leur attitude familière pleine de respect. Après avoir examiné de manière comparative la position générale des femmes de l'Est et de l'Ouest, et décrit comment, sous de nombreux aspects, les femmes de l'Est ont un avantage sur leurs sœurs de l'Ouest, Abdul-Baha se tourna vers la visiteuse et dit « Donnez-moi vos raisons pour croire qu'aujourd'hui, la femme devrait avoir le droit de voter. » Réponse : Je crois que l'humanité est une humanité divine et qu'elle doit s'élever de plus en plus haut, mais elle ne peut prendre son essor avec une seule aile. » À cette réponse, Abdul-Baha exprima son plaisir et souriant répliqua : Mais que ferez-vous si une aile est plus forte que l'autre ? Réponse : Alors nous devons fortifier l'aile la plus faible, sinon le vol sera toujours gêné. Abdul-Baha sourit et demanda « Que direz-vous si je vous prouve que la femme est l'aile la plus forte ?» La réponse vint d'une veine tout aussi éclatante « Vous gagnerez mon éternelle gratitude », ce qui amusa toute la compagnie. Abdul-Baha continua plus sérieusement « La femme est en effet de la plus grande importance pour la race humaine. Elle porte le plus lourd fardeau et fournit le plus grand travail. Regardez les mondes végétal et animal. Le palmier qui porte le fruit est l'arbre le plus prisé par ceux qui font la culture des dattes. L'arabe sait que pour un long voyage, la jument est plus endurante. Pour sa plus grande force et férocité, le chasseur craint plus la lionne que le lion. Il a été prouvé que la simple taille du cerveau n'est pas une mesure de la supériorité. La femme a un plus grand courage moral que l'homme. Elle a aussi des dons spéciaux qui la rendent capable de gouverner dans des moments de danger et de crise. Si nécessaire, elle peut devenir un guerrier. Chapitre 2.43 Zénobie. Abdul-Baha demanda aux gens qui l'entouraient s'ils se souvenaient de l'histoire de Zénobie et de la chute de Palmyre, nota, au IIIe siècle après Jésus-Christ, sous l'empereur romain Aurélien. Il continua alors comme suit. Faisant des gestes de la main avec la simplicité et la gravité qui lui étaient propres. Il y avait alors un gouverneur dans l'ancienne Syrie qui avait une épouse belle et intelligente. Elle avait de telles capacités qu'au décès du gouverneur, elle fut placée au règne du pouvoir. Le pays prospérait sous sa tutelle et les hommes reconnurent qu'elle était meilleure souveraine que son mari. Après un temps, les légions de Rome envahirent le pays. Mais elle les repoussa à plusieurs reprises, les jetant dans une grande confusion. Laissant tomber ses beaux cheveux, elle chevauchait à la tête de l'armée, vêtu d'un manteau écarlate, portant une couronne d'or et maniant une épée à double tranchant. L'empereur romain retira alors ses armées de 5 autres provinces dans le but de la soumettre. Après un long et brave combat, Zénobie se replia dans la ville de Palmyre qu'elle renforça de prodigieuses fortifications, et là elle endura un siège de 4 mois, l'empereur étant incapable de l'en déloger. La nourriture qu'elle avait stockée à l'intérieur des murs fut finalement épuisée. La misère et les plaies de son peuple affamé la forcèrent à se rendre. L'empereur était plein d'admiration pour cette grande femme en raison de son courage et son endurance, et il lui demanda de devenir son épouse. Mais elle refusa, disant qu'elle ne consentirait jamais à prendre pour époux l'ennemi de son peuple. L'empereur devint alors enragé et fut décidé à l'humilier. Il la prit avec lui dans ses vaisseaux pour son retour à Rome. Un grand défilé fut préparé pour son entrée triomphale et les rues étaient pleines de gens. Les éléphants défilèrent en premier, suivis des chameaux. Après les chameaux, ce fut le tour des tigres et des léopards. Après les léopards, vinrent les singes, et en dernière position, après les singes, marchait Zénobie avec une chaîne d'or autour du cou. Elle se tenait toujours tête haute, ferme dans sa détermination. Rien ne pouvait briser son esprit. Elle refusa de devenir impératrice. Elle fut donc jetée dans un cachot, et par la suite, elle mourut. Abdu'l-Bahâ s'interrompit. Le silence régna dans la pièce pendant un long moment avant qu'il ne soit rompu. Une autre fois, Abdu'l-Bahâ dit à un groupe d'amis autour de lui « Prises dans leur ensemble, les femmes ont aujourd'hui un plus fort sens de la religion que les hommes. L'intuition des femmes est plus juste, elle est plus réceptive et son intelligence est plus vive. Le jour arrive où la femme démontrera sa supériorité sur l'homme. La femme a partout été l'objet d'éloges pour sa fidélité. Après les souffrances du Seigneur Christ, ses disciples pleurèrent et donnèrent libre cours à leur peine. Ils pensaient que leurs espoirs avaient volé en éclats et que la cause était complètement perdue, jusqu'à ce que Marie-Madeleine vint à eux pour les fortifier, disant « Êtes-vous en deuil pour le corps de notre Seigneur ou pour son esprit ? Si vous êtes en deuil pour son esprit, vous êtes dans l'erreur, car Jésus vit, son esprit ne nous quittera jamais. » Ainsi, grâce à sa sagesse et son encouragement, la cause du Christ se maintint pour toujours. Son intuition la rendit capable de saisir ce fait spirituel. Voir Marc 16, 10, Luc 24, 9 et 24, 22 et Jean 20, 18. Abdu'l-Bahâ ajouta alors « Mais aux yeux de Dieu, le sexe ne fait nulle différence. Le plus grand est celui ou celle qui est le plus proche de Dieu. » Un matin, Abdu'l-Bahâ, en entrant dans la pièce, regarda autour de lui et dit « C'est comme un miracle d'être ensemble ici. Il n'y a point de lien racial, politique ou patriotique. Nous sommes reliés par les paroles de Baha'u'llah et toutes les races de la terre seront réunies de la même manière. De cela, soyez assurés. » Chapitre 2.44 Le vrai Bahaï. Je n'ai jamais entendu parler de Baha'u'llah, dit un jeune homme. Je n'ai eu quelques lectures sur ce mouvement, mais je reconnais la mission de Baha'u'llah et je désire être un disciple. J'ai toujours cru que la fraternité humaine était l'ultime solution de toutes nos difficultés nationales et internationales. Cela ne fait aucune différence que vous ayez ou non entendu parler de Baha'u'llah, répondit Abdu'l-Bahâ. L'homme qui vit la vie en accord avec les enseignements de Baha'u'llah est déjà un bahaï. D'un autre côté, un homme peut se dire bahaï pendant 50 ans. S'il ne vit pas la vie bahaï, il n'est pas un bahaï. Un homme laid peut se dire beau, mais il ne trompe personne. Et un homme noir peut se dire blanc, là encore il ne trompe personne, même pas lui-même. Chapitre 2.45 La venue de la paix. Par quel processus, continua le jeune homme, la paix sera-t-elle établie sur terre ? Viendra-t-elle tout de suite après une proclamation universelle de la vérité ? Non, cela viendra graduellement, dit Abdu'l-Bahâ. Une plante qui croît trop rapidement ne dure qu'un temps court. Vous êtes ma famille, et il regarda tout autour avec un sourire, mes nouveaux enfants. Si une famille vit à l'unisson, de bons résultats s'observent. Élargissez le cercle. Quand une ville vit dans une harmonie parfaite, il s'ensuivra de grandes réalisations. Et un continent qui est pleinement uni unira de la même façon tous les autres continents. Alors viendra le temps des plus grands résultats, car tous les habitants de la Terre appartiennent à une seule patrie. Chapitre 2.46 Le cœur pur. Quand on lui demanda une définition d'un cœur pur, Abdu'l-Bahá dit « Le cœur pur est celui qui est entièrement coupé du moi. Être altruiste, c'est être pur. » Chapitre 2.47 La vraie spiritualité. Un autre matin, Abdu'l-Bahá commença tout de suite à parler tandis qu'il rejoignait le groupe de chercheurs. Il dit « Louange soit à Dieu, ce siècle est un siècle glorieux. Puisse l'amour augmenter chaque jour. Puisse-t-il faire jaillir l'étincelle du feu pour allumer la chandelle dans l'obscurité, comme un don et une miséricorde de Dieu. Sachez, ô vous êtres doués de pénétration, que la vraie spiritualité est comme un lac d'eau claire qui reflète la divinité. Telle était la spiritualité de Jésus-Christ. Il y en a une d'un autre genre qui est comme un mirage, qui semble être spirituel mais qui ne l'est pas. Ce qui est vraiment spirituel doit éclairer le sentier qui conduit à Dieu et doit se traduire en actes. Nous ne pouvons pas croire qu'on se dit spirituel quand il n'y a pas de résultat. L'esprit est vérité, et quand l'esprit en chacun de nous cherche à se joindre à la grande vérité, il doit à son tour donner la vie. Les Juifs au temps du Christ étaient morts, n'ayant pas de vie véritable, et Jésus fit vraiment jaillir un nouveau souffle dans leur corps. Regardez ce qui a été accompli depuis. Chapitre 2.48 La connaissance doit se concrétiser par l'action. Un représentant d'une association très connue fit référence aux réunions qu'ils avaient dans le but de rechercher la réalité de la vérité. Et Abdu'l-Bahá dit « Je connais votre travail. J'en pense beaucoup de bien. Je sais que votre désir est de servir l'humanité » et de réunir l'humanité sous la bannière de l'unicité. Mais ses membres doivent prendre garde que cela ne devienne qu'une discussion. Regardez tout autour de vous. Combien de comités ont été formés et ont eu une vie éphémère? Les comités et les associations ne peuvent pas créer ni donner la vie. Les gens se réunissent et parlent, mais c'est le Verbe de Dieu qui, seul, agit avec puissance. Réfléchissez un instant. Feriez-vous du commerce ensemble si vous n'aviez ni revenus ni bénéfices qui en découlent? Regardez les disciples du Christ. Leur pouvoir était dû à leur ardeur et à leurs actes. Tout effort doit avoir son résultat, sinon cela n'est pas un vrai effort. Vous devez devenir ces mèches qui éclairent le monde de l'humanité. Là sont les preuves et signes infaillibles. Tout progrès dépend de deux choses, la connaissance et la pratique. Premièrement, acquérez la connaissance et quand vous êtes convaincu, mettez-la en pratique. Un jour, un homme érudit qui avait voyagé pour me rencontrer et recevoir ma bénédiction disait qu'il connaissait et comprenait les enseignements bahaï. Quand je lui dis qu'il pouvait recevoir les bénédictions du Saint-Esprit à n'importe quel moment, s'il se mettait dans une attitude réceptive pour les accepter, il dit qu'il était toujours dans une attitude réceptive. « Que feriez-vous, lui demandai-je, si je me tournais soudainement et je vous frappais ?» Il s'emporta aussitôt avec indignation et sortit de la pièce à grands pas, en colère. Au bout d'un moment, je vins à lui et lui pris le bras en lui disant « Mais vous devez rendre le bien pour le mal. Que je vous ai honoré ou méprisé, vous devriez suivre les enseignements. Maintenant, vous les avez simplement lus. Souvenez-vous des paroles de Jésus qui dit « Le premier sera le dernier » et le dernier le premier. » Voir Matthieu 19:30, Marc 10:31 et Luc 13:30. L'homme se tourna, serra ma main et partit. Et depuis, j'ai eu écho de nombreuses bonnes actions qu'il a faites. Lorsqu'on désigna Abdu'l-Bahá du nom de prophète, il répondit « Mon nom est Abdu'l-Bahá, le serviteur de Dieu, littéralement l'esclave de la gloire. » Nota « À rapprocher de mon nom est Abdu'l-Bahá, ma réalité est Abdu'l-Bahá, et servir toute la race humaine est ma religion perpétuelle. Abdu'l-Bahá est la bannière de la plus grande paix. Il est le héros du royaume, afin qu'il puisse réveiller les peuples de l'Est et de l'Ouest. Il est la voix de l'amitié, de la vérité et de la réconciliation, vivifiant toutes les régions. Il n'aura jamais ni nom ni titre, excepté Abdu'l-Bahá. Ceci est mon aspiration, ceci est mon rang suprême. Ô vous, amis de Dieu, Abdu'l-Bahá est la manifestation de servitude et non pas le Christ. Il est le serviteur de l'humanité et non pas un chef. Conviez le peuple à la station du service de Abdu'l-Bahá et non sa chrétienté. Nota d'une lettre envoyée aux amis de New York, 1er janvier 1907. Chapitre 2.49 La visite au Lord Maire. À la demande expresse du Lord Maire, Abdu'l-Bahá lui rendit visite un matin à la Mansion House, nota résidence officielle du Lord Maire dans la City de Londres. La discussion s'orienta principalement sur les conditions sociales des grandes villes, et Abdu'l-Bahá dit que Londres était la ville la plus organisée qu'il eût jamais vue. Il ajouta « Chaque homme marchant dans la rue est libre, comme s'il était dans son propre royaume. Il y a une grande lumière spirituelle dans Londres. L'effort pour la justice est réel, et dans ce pays la loi est la même pour le pauvre comme pour le riche. Il prit grand intérêt à entendre parler du soin pris pour les prisonniers quand ils quittent la prison, et parla de l'heureux pays dont les magistrats sont comme des pères pour le peuple. Avant de quitter Londres, Abdu'l-Bahá se rendit à un hôpital du quartier Est pour y voir un jeune écrivain très malade qui y était alité et qui avait une grande envie de le rencontrer. Chapitre 2.50 Quelques caractéristiques personnelles. Il y a un aspect du caractère de Abdu'l-Bahá sur lequel on n'a pas insisté, et sans lequel aucune idée de lui ne peut être complète. L'impressionnante dignité qui se dégage de sa présence et de sa prestance est teintée d'un humour délicat et plein de tact, qui est tout aussi naturel que contagieux et délicieux. Lors de son dernier après-midi à Londres, un journaliste vint s'enquérir de ses projets futurs et le trouva entouré de plusieurs amis venus lui dire au revoir. En réponse à sa question, Abdu'l-Bahá lui fit part dans un anglais parfait de son intention de visiter Paris et ensuite de se rendre à Alexandrie. Le représentant de la presse manifesta une certaine surprise à sa prononciation anglaise sans faute. Sur ce, Abdu'l-Bahá commença à marcher à grands pas libres dans la pièce pleine de senteurs de fleurs, son habit oriental contrastant étrangement avec son environnement moderne. Et au grand amusement de l'assemblée, il prononça une série de mots anglais élaborés, puis finit par dire en riant « Des mots anglais très difficiles, je parle ». Un peu plus tard, avec la rapide transition de quelqu'un qui sait être à la fois gai et grave, il se montra terriblement sérieux. Il avait laissé des ordres pour que personne ne soit renvoyé, mais quelqu'un qui avait essayé vainement par deux fois de l'atteindre et en avait été empêché par inadvertance, lui écrivit une lettre déchirante montrant qu'il s'était senti repoussé. L'interprète persan traduisit la lettre. Abdu'l-Bahá mit soudain son manteau et se dirigeant vers la porte, dit avec une expression de tristesse indescriptible « Un de mes amis a été blessé, et j'en suis très peiné. Je sors tout seul. » Et il descendit les marches. Chacun put apprécier combien le titre de maître lui seyait bien. Un autre aspect de son caractère, qu'aucun de ceux qui l'ont vu ne pourra oublier, était son attitude envers les enfants qui lui étaient présentés. Il donna nombre de ses causeries assis, entourant l'un d'eux de son bras. Il admonestait invariablement les parents ainsi « Donnez à cet enfant une bonne éducation. » Efforcez-vous de lui donner le meilleur de ce que vous pouvez vous permettre, afin qu'il soit capable de bénéficier des privilèges de cet âge glorieux. Faites tout ce que vous pouvez pour encourager le spirituel en lui. Quiconque recherchait la présence de Abdu'l-Bahá était frappé de la sympathie paternelle qu'il incarnait. Parlant de son amour et de celui des autres à son égard, Abdu'l-Bahá répondait « Je sais que vous m'aimez. Je peux voir cela. Je prierai pour vous afin que vous soyez ferme, que vous serviez la cause et que vous deveniez un vrai serviteur de Baha'u'llah. Bien que je m'en aille, je serai toujours présent parmi vous. » Ces paroles furent dites avec la plus grande sympathie et une compréhension bienveillante des difficultés. Pendant cette petite causerie, Abdu'l-Bahâ prit les mains de son interlocuteur pour les caresser et à la fin prit sa tête et avec une délicate attention l'attira à lui et baisa le front du jeune homme qui eut l'impression d'avoir trouvé un père et un ami.